Alors bonjour chers auditeurs, vous êtes bien à Vues et Voix, mais à l'émission Voix de service. Et ce matin, en l'absence de Claude Blas, votre animateur préféré, il y a Serge Hamelin qui vous parle, et je suis en compagnie de l'autre voix de service, Francine Nieuviard. Et tous les deux, nous allons vous lire des articles que nous avons trouvés dans différentes revues. Francine Nieuviard, elle a trouvé des articles fort intéressants et elle va nous en parler avant de commencer ses articles. C'est quoi?
Oui, alors moi, comme d'habitude, j'ai choisi un article dans le journal Le Bel Âge de juillet-août 2018. Il s'appelle « Je veux donner un sens à ma vie ». Et ensuite, ou avant, je ne sais pas encore, j'ai pris deux articles dans le journal L'Itinéraire du 1er août 2018. Ce journal L'Itinéraire du 1er août a comme thème « Obsédé par nos corps ». Et donc, je vais vous lire un article qui est l'éditorial de cette revue qui s'appelle « Habiter le corps qu'on a », suivi de « Sommes-nous tous grossophobes ?»
C'est bien. Et en l'absence de notre ami Jean-Sébastien Laliberté, on a Maurice qui est technicien en studio et qui nous permet de nous mettre en onde ce matin. Bienvenue Maurice. Moi je vais vous parler et c'est notre ami Jean-Sébastien qui est en congé de paternité. Il aurait bien aimé entendre ça. Bébé en a-t-il vraiment besoin?
Hein? Oui, c'est
il a
ça.
Eu un bébé, pas lui mais sa femme. Il l'accompagne.
Pas encore, très bientôt.
Ah, pas encore.
Pas encore.
Incessamment.
Ah, bon, mais alors je vais lui poster l'article. Bébé en a-t-il vraiment besoin? Il n'a pas eu le bébé encore. Ça s'en vient. Et puis, je vais vous parler des yogourts. Ah, les fameux yogourts. Il y en a-t-il des yogourts? Eh bien, je vais vous parler des meilleurs. C'est la revue Protégez-vous qui a goûté au yogourt. C'est beau? Alors, à vous, Francine.
Bien, alors... Ah oui, oui, c'est ça. Alors, donc, je commence par « Habiter le corps qu'on a ». J'ai souvenir d'être en voiture, dit José Panérémont, la rédactrice en chef du journal L'Itinéraire. J'ai souvenir donc d'être en voiture, arrêté à un feu rouge, le regard captivé par une femme qui attendait l'autobus. Il se dégageait d'elle une grâce et une beauté qui forçaient l'admiration. « Oh, quelle belle femme » ai-je commenté à la personne qui m'accompagnait. La dame, à l'allure racée, vêtue d'une jolie robe colorée qui flottait au vent, avait un air fier et sensuel à faire tourner les têtes. Elle devait peser dans les 250 livres. Cette femme s'assumait, c'est ça qui la rendait belle. En plus, elle était noire. On pouvait supposer alors que dans sa culture, les femmes corpulentes sont considérées comme plus attrayantes. Ce qui n'est pas nécessairement le cas en Amérique du Nord, voire un peu partout en Occident. Ici, le culte de la minceur et du corps parfait occupe encore beaucoup de place, bien que les mentalités commencent à changer tranquillement pas vite. On voit de plus en plus de mannequins taille plus dans les magasins, dans les magazines et de comédiennes bien enveloppées à la télé et au cinéma jouer des rôles qui ne se rattachent pas à leur physique. Il était temps. De la sorte, on offre un portrait pas mal plus fidèle de la société. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que les femmes et les hommes acceptent leur corps et cessent de faire de l'obsession sur ce que l'on estime être le corps normal. Dans un passé pas si éloigné, soit jusqu'aux années 1920, les femmes aux formes généreuses étaient la norme, symbole de prospérité parce que bien nourries. Puis les choses ont commencé à changer. La cure minceur s'est manifestée au cinéma, comme par exemple dans les années 30, la filiforme Cendrillon de Walt Disney, avec son irréelle taille de guêpe, dictait inconsciemment ou consciemment ce qu'était le corps idéal. Les personnages plus gros, quant à eux, avaient des rôles risibles, voire détestables. Dans les décennies suivantes, c'est Barbie, aux proportions impossibles, qui montrera aux petites filles et à leurs mamans ce à quoi elles devraient ressembler. Les plus de 50 ans se souviendront de l'androgynique mannequin Twinkie, une brindille à la moue sexy, mais au corps dépourvu de courbes, qui faisait la une de toutes les revues de mode dans les années 67-68. C'est aussi à cette époque que l'anorexie connaîtra une recrudescence chez les adolescentes qui voulaient l'émuler. Parallèlement, la mode des régimes explose, tout comme l'hyperculpabilisation du gain de poids. Et paradoxalement, le fast-food envahit la culture nord-américaine avec son sucre, ses calories dans le plafond et ses gras saturés qui font grimper la masse corporelle d'une bonne part de la population. On n'a jamais compté autant de personnes obèses, ni autant de grossophobes. Les personnes grosses, dans l'œil de la société, reflètent ces dérives et ces excès. Les experts se confondent en études et en théories pour expliquer la croissance du surpoids et de l'obésité dans notre société. Mais pas besoin d'être un scientifique pour pointer du doigt l'angoisse comme l'un des facteurs. Pour être capable de composer avec la vie, ses peines et ses misères, certaines personnes mangent leurs émotions, au même titre que d'autres boivent ou se droguent. Et sur certaines, les kilos collent plus facilement que sur d'autres qui peuvent se permettre de manger abondamment sans prendre de poids. En parlant de drogue, le sucre en est une par excellence. Pour ceux qui ont vu Super Size Me de Morgan Spurlock sur la consommation excessive de Malbouc de chez McDonald's, les quantités phénoménales de sucre qu'il a ingurgité pendant le tournage de son documentaire l'ont mené aux portes de la cirrhose du foie et lui ont fait prendre 11 kilos en un seul mois. Son film dressait ainsi le portrait de l'obésité chez les Américains, devenu quasi épidermique. Pour pallier aux dommages causés par la malbouffe et la sédentarité, la mode du workout, de la bouffe santé, du végétarisme et du véganisme prend de l'essor. Et comme c'est souvent le cas, l'humain est ainsi fait, on a tendance à verser dans les extrêmes. De la surconsommation alimentaire à l'anorexie, de la sédentarité au conditionnement physique intensif, il y a un juste milieu. Celui où l'on s'accepte dans nos corps, avec ses poignées d'amour, bedaines, seins petits ou très gros, fesses maigrichonnes ou imposantes. Bref, s'assumer et habiter le corps qu'on a. Voilà donc l'éditorial de José Panay-Raymond. Et je continue avec finalement cette question que pose aussi le journal itinéraire. Sommes-nous tous grossophobes ? Aujourd'hui, la moitié de la population québécoise est en surpoids. La province compte également 18% de personnes dites obèses. Un chiffre important, surtout quand on réalise qu'un grand nombre d'entre elles doivent faire face chaque jour de leur vie à une discrimination tenace. À l'école, lorsqu'il fallait lire à voix haute le mot « gros » dans un texte, j'avais des sueurs et le cœur qui battait, raconte Katia Lévesque, une femme que l'on qualifie d'obèse depuis l'enfance. Je savais que les autres élèves allaient m'identifier à ce mot. Nous la rencontrons en studio, c'est Camille Teste qui écrit ça, alors qu'elle s'apprête à poser pour la couverture du numéro de l'itinéraire du 1er août donc 2018. Nous la rencontrons en studio alors qu'elle s'apprête à poser pour la couverture de l'itinéraire. Naturelle, elle déambule à demi nue, aussi à l'aise que si elle était dans sa propre salle de bain. Autour, nous interceptons quelques regards surpris. On n'a pas l'habitude de voir une femme grosse assumer son corps. Confrontée depuis toujours au jugement d'une société qui déconsidère les personnes en surpoids, elle a mis du temps pour en arriver là. « J'ai déserté de mon corps quand j'étais enfant », raconte-t-elle. Devenue comédienne, Madame Lévesque a appris à jouer avec sa plastique. À un moment donné, l'art est devenu une façon de m'exprimer. Je ne voyais mon type de corps nulle part à la télévision ou au cinéma, alors je me suis dit que j'irais moi-même. L'objectif de l'artiste était clair. Elle voulait donner accès à un corps différent et pousser le public à s'interroger. Pourquoi associons-nous d'emblée ce corps à quelque chose de laid ? Je voulais offrir cette opportunité de poser un regard différent sur la cellulite, les vergetures, le gras, explique-t-elle. Explique celle qui pose également comme modèle vivant pour les étudiants en art au collégial. Alors, si le travail de Katia Lévesque est nécessaire, c'est que la représentation qui est faite des personnes grosses dans l'espace public est pour le moins stigmatisante. Dans les œuvres de fiction, par exemple, un personnage gros, ça va être une grosse noire super lode. Une grosse amie sans vie sexuelle, un méchant dans un film Disney, comme Ursula dans La Petite Sirène, ou alors le kid bully dans les films pour enfants. Mais jamais le personnage principal, sauf si son histoire, c'est qu'il veut maigrir, déplore Gabrielle Lisa Collard, chroniqueuse et auteure du blog Taille Plus. Symptomatique de la manière dont nous traitons les personnes en surpoids dans notre société, ces représentations ne sont qu'un exemple d'une liste ahurissante de préjugés et de discriminations. Ce phénomène que les militants nomment « grossophobie » peut prendre différentes formes, regard en coin porté sur une chair jugée trop abondante, injonction à maigrir de la part de l'entourage proche ou d'inconnus dans l'espace public, moquerie, voilà le lot commun de bien des personnes en surpoids. lenteur, bêtise, paresse, gloutonnerie, les allégations faites au sujet du caractère des personnes en surpoids ne manquent pas non plus. Forcément, un gros se roule dans les plaisirs terrestres, soupire Gabrielle Lisa Collard. Donc je vais continuer cet article après une petite pause musicale. Sommes-nous donc tous grossophobes? La suite de ce questionnement. Au niveau systémique, le tableau n'est pas plus reluisant. Aux États-Unis ou en France, des études montrent que les personnes en surpoids auraient moins de chances de trouver un emploi. Si au Canada, la recherche est plus profuse en la matière, des provinces comme le Manitoba cherchent à légiférer sur le sujet, conscients que le problème est réel. De même, dans le secteur médical, on ne compte plus les témoignages de personnes en surpoids qui accusent les médecins de minimiser leur douleur physique ou morale, la réduisant souvent à un problème de corpulence. Sur son blog, Gabrielle Lisa Collard accumule les témoignages anonymes de personnes ayant subi ce type de dérive. Parmi eux, il y a cette jeune fille de 12 ans qui est allée consulter un médecin plusieurs fois pour une forte douleur aux jambes. À chaque fois, on lui conseille de faire de l'exercice et de perdre du poids. Il lui faudra consulter un second praticien pour apprendre qu'elle souffre d'une tumeur cancéreuse autour du nerf sciatique. Elle fera 10 mois de chimiothérapie. Parmi les lieux communs subis au quotidien, il y en a qui exaspèrent profondément Madame Collard. Le préjugé numéro un pour moi, c'est l'idée selon laquelle être gros est un choix et qu'il suffirait de dire à une personne grosse de maigrir pour que ça fonctionne, souffle-t-elle. Pour la nutritionniste Lisa Rutledge, dire que cela revient à faire fi d'une réalité crue, le physique n'est pas qu'une question de volonté. Notre poids est déterminé à 75% par autre chose que notre alimentation et notre activité physique, explique-t-elle. Par exemple, il faut prendre en compte les antécédents de chacun, mais aussi le stress, le statut économique et l'endroit où l'on vit. Celui-ci nous permet-il de nous déplacer à pied ? Et même si l'on parvient à suivre un régime, il y a de très fortes chances pour que ça ne fonctionne pas, ou seulement de façon provisoire. Plus encore, suggérer à une personne en surpoids de faire un régime produirait selon elle l'effet inverse. La recherche a montré que la stigmatisation avait un effet négatif sur le mental et sur le physique. Il y a des chances que la personne concernée gère cette injonction en mangeant plus et en bougeant moins, car elle ne voudra pas, par exemple, que les gens rient d'elle et de son corps en mouvement. Le sport, justement, a longtemps été la bête noire de Madame Collard. Petite, j'aimais ça, mais je me faisais souvent juger. Ça ne donne pas envie de continuer. Il a fallu que je me réconcilie avec mon corps pour savoir quelle activité physique me plaisait, confie-t-elle. Aujourd'hui, je vais à la piscine, je fais de la danse, du yoga. Je me suis rendu compte que le corps peut faire n'importe quoi. Après tout, il y a des athlètes qui font des Ironman dans des corps plus gros que le mien. Avec le temps, malgré les injonctions sociales, Gabrielle, Lisa Collard et Katia Lévesque ont reconstruit une complicité avec leur corps. Dans un monde idéal, cette complicité n'aurait pas été mise au défi. Pourquoi partir du principe qu'être gros, c'est négatif en soi ? S'interroge Madame Collard. Si tu enlèves les préjugés, il n'y a pas de réel problème. Selon elle, il faut aussi cesser de considérer que les personnes grosses ont nécessairement besoin de maigrir. On associe trop souvent surpoids et maladie. Pourtant, un corps gros n'est pas forcément un corps malade. Être gros, c'est juste un état. Lisa Rutledge, nutritionniste, va dans le même sens. Je l'explique tous les jours. La taille d'un corps ne démontre rien du mode de vie ou de la santé d'une personne, montre-t-elle. Il est juste plus facile de faire des suppositions sur un gros corps. On se dit que si quelqu'un a un tel physique, c'est forcément que cette personne présente un trouble. Or, ce n'est pas toujours le cas. Le terme grossophobie n'a pas été choisi au hasard. Étymologiquement, le mot renvoie à la peur des grosses personnes. Dans un contexte où l'Organisation mondiale de la santé parle d'épidémie d'obésité et où nos corps n'ont jamais subi autant d'injonctions, il semblerait que nous ayons développé une peur collective du surpoids. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais aujourd'hui, on a peur d'être gros ou de ne pas être capable de changer notre corps pour l'être moins, déplore Lisa Rutledge. Sauf qu'au lieu de lutter, entre autres, contre les dérives de l'industrie alimentaire et contre les messages toxiques de celle de la minceur, individus et structures sociales s'en seraient pris aux premiers concernés. Gros ou non, aujourd'hui, tout le monde est grossophobe et tout le monde est victime de la grossophobie rampante qui affecte notre société, affirme Gabrielle Lisa Collard sur son blog. Depuis quelques mois, les voix de ceux qui militent contre la grossophobie rencontrent un écho favorable à l'international. Il reste qu'il faudra du temps pour faire changer les mentalités. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas essayer, conclut-elle. Voilà donc cet article écrit par Camille Test, dans le journal L'Itinéraire du 1er août 2018 et qui nous fait réfléchir à « Sommes-nous tous grossophobes ?» Voilà.
Chacun son tour, on pleure sur le monde. À chacun son tour, on pense en mourir. Ce soir, c'est au tour de la grosse Raymonde. Elle a des sanglots qui coupent le respire.
Elle a des sanglots qui coupent le respire.
J'écoute Raymonde qui pleure et qui mouche. À 45 ans, son homme est parti. Je ne trouve rien qui calme ou la touche. J'écoute le monde, je pleure avec lui.
J'écoute le monde, je pleure avec lui.
Il n'y a pas d'âge pour quelqu'un qu'on blesse et pas de sagesse face au désespoir. Pendant 18 ans, j'étais sa maîtresse. Je pourrais plus dormir à partir d'un soir. Pour lui, c'est fini, elle reste fidèle. Il veut essayer de refaire sa vie. Elle pense à l'amour laissé derrière elle. Il va voir ailleurs, elle en meurt ici.
Il va voir ailleurs, elle en meurt ici.
Moi, je n'y peux rien si tout va de travers. Qui a fait le monde sans en prendre soin? Pleurons nos amours, c'est bon pour les nerfs. La saison des pluies fait pousser le foin. Mais l'espoir me vient de la grosse Raymonde. D'un coup de sacoche, elle remonte son sein. Je m'en trouverai un autre. C'est pas la fin du monde. À chacun son tour de croire aux humains.
À chacun son tour de croire aux humains.
Au voie de service, on entendait Clémence Desrochers, la grosse Raymonde.
Oui, c'est bien ça... d'à propos.
Oui, tout à fait, merci. Et bon, on a parlé du monde de la grosseur. Maintenant, moi, je vais vous parler du monde des bébés. Ouais, avant d'être gros, on est bébé.
Oui, mais on peut trouver des bébés obèses dans notre société, comme on dit.
Oui, oui, d'accord. Okay. Mais il y en a moins, mettons. Alors, bébé, en a-t-il vraiment besoin? Et en tant que futur parent, vous souhaitez être bien équipé pour accueillir votre enfant, mais quels sont les produits qui finiront encore tout neufs au fond du placard? Alors, je continue. C'est Nathalie Côté qui a écrit cet article-là dans la revue Protégez-vous. Sarah-Jeanne Brault et Nicolas Roy attendent leur premier enfant pour la fin de septembre. Et très vite, ils ont été bombardés d'offres et de conseils de toutes sortes en provenance de leur entourage, des médias et des réseaux sociaux. C'était excitant au début de regarder les produits qui existent, dit la future maman. Mais à travers les recommandations de tous et chacun, on ne sait plus à qui se fier. Avant de se lancer dans des achats impulsifs, Sarah-Jeanne a décidé de tirer parti des dons offerts par ses proches. Et plutôt économe, elle a également acheté des objets d'occasion pour limiter les frais. Son budget de départ, 2 000 $. Elle espère toutefois s'en tirer avec une facture de 1 000 $. Pour atteindre son objectif, le couple devra cependant faire les bons choix. Quand je vois sur Kijiji les annonces de produits vendus à l'état neuf ou encore dans leur boîte, je me dis que cela ne doit pas être si utile que ça, souligne Sarah-Jeanne. Un bébé, ça coûte combien? Difficile à dire à combien s'élève la facture pour l'arrivée d'un bébé, et cela dépend grandement des choix que les parents effectueront. Chose certaine, les petits font tourner l'économie au pays. En 2017, il s'est vendu pour plus de 5 milliards 400 millions de dollars de vêtements, chaussures, meubles, produits de soins et autres articles pour bébés, selon Statistique Canada. Et ça, c'est sans compter les objets de seconde main. Pour éviter de dépenser une fortune, n'achetez que l'essentiel. Et quels sont alors les produits qu'il vaut mieux laisser en magasin? La réponse peut varier en fonction des besoins de chacun, mais nous avons demandé l'avis de plusieurs parents à ce sujet. Ils ont dressé la liste des objets pour bébés qui leur ont peu ou pas servi, ou pour lesquels il existe des solutions de rechange simples et peu coûteuses. Résultat, en ne vous procurant pas ces produits, ce sont de 420 à 1550 $ environ qui resteront dans vos poches. Exemple, la douillette et tour de lit. On peut faire des économies potentielles de 40 à 300 $ environ. Il y a des colliers contre la douleur, des poussées dentaires, imaginez-vous donc. Économie entre 10 et 15. Bon. Un stérilisateur et chauffe-biberon. Des économies potentielles de 25 à 190 $. Exemple. Ces appareils, le chauffe-biberon, le stérilisateur, semble drôlement pratique, et pourtant, c'est lourd et encombrant, tranche Cynthia Lefebvre, mère de 3 enfants de 2 à 3 et 6 ans. Je les ai utilisés 2 fois et ils ont fini au sous-sol. Un chaudron d'eau bouillante pour stériliser les suces et les biberons fait très bien le travail. Et de plus, le biberon du lait peut être réchauffé dans l'eau chaude. Exemple, un autre exemple. On peut faire des économies entre 4 et 30 $ des ustensiles pour bébé. Écoutez ça, elle est bonne celle-là. Certains parents aiment l'idée d'avoir des ustensiles de petite taille adaptés à la bouche de leur bébé. Et ces objets ne font cependant pas l'unanimité. Les cuillères à thé, les fourchettes à dessert conviennent très bien, estime Caroline Leclerc. Et la cuillère qui change de couleur lorsque le repas est trop chaud, il y a des cuillères qui changent de couleur. C'est une fausse bonne idée, dit Amélie Lessard. Une fois, mon conjoint disait que la nourriture était encore trop chaude. Ça faisait pourtant 20 minutes qu'elle était sur le comptoir. On s'est rendu compte que la fameuse cuillère mettait beaucoup de temps à retrouver sa couleur et que le plat avait bel et bien refroidi. Alors, pour vérifier la température, il suffit d'y toucher. Hein? La petite cuillère qui change de couleur. On économise 30$ en faisant ça. Par exemple, les contenants pour congeler les purées, ils sont pratiques, mais plusieurs parents les jugent inutilement coûteux puisqu'ils servent peu de temps. On a tous un bac à glaçons à la maison dans lequel on peut congeler les purées et ça fait des portions parfaites, estime Amélie Lessard. Le bain de bébé, par exemple, hein, qu'on paie de 20 à 70$ environ. Ce type de bain s'installe généralement dans le fond de la baignoire, sur le comptoir ou dans l'évier de la cuisine. Mon enfant gigotait beaucoup et il éclaboussait partout, se souvient Caroline Leclerc. Pour laver son bébé, elle se servait plutôt du support avec filet qui était fourni avec le bain et elle l'a utilisé dans la grande baignoire de la salle de bain. Et d'autres parents interrogés indiquent avoir lavé leur nouveau-né directement dans l'évier de la cuisine. Et je me souviens d'avoir vu ma mère faire ça. Pas sur moi, là, mais sur les autres, après moi. Alors, oh mon Dieu Seigneur, tiens, des chaussures pour bébé. Hein? On peut économiser de 30 à 100$ environ. Elles sont très mignonnes, c'est cute, hein? Mais les bébés n'en ont pas besoin. Et même lorsque le bambin commence à se tenir debout et à marcher, il reste plus facilement en équilibre lorsqu'il est pieds nus, explique la docteur Laflamme. La chaussure sera utile lorsqu'il aura acquis une certaine stabilité. Donc, pas de presse pour vous en procurer. Moniteur de mouvement, économie potentielle de 80 à 400$. Cet appareil, constitué d'une plaque à placer sous l'enfant, est destiné aux parents qui craignent que leur poupon ne cesse de respirer pendant son sommeil. Alors, le moniteur émet une alarme lorsqu'il ne détecte plus du tout le mouvement. Or, ce type de produit devient une grande source de stress, confie Amélie Lessard. Quand j'allais chercher mon bébé la nuit, j'oubliais d'éteindre le moniteur, raconte-t-elle, et mon conjoint se réveillait alors en sursaut à cause de l'alarme. Elle sonnait aussi lorsque mon bébé se déplaçait et se retrouvait à côté de la plaque. Alors là, hein, l'appareil ne percevait plus sa respiration. Alors, voyez-vous, il y a d'autres jouets sauteurs et soucoupes, le thermomètre auriculaire. Oh, pipi-tipi! Ça, c'est cute, ça. C'est un petit appareil qui permet de mettre sur le pipi pour pas que ça va partout quand on change la couche. Elle dit non, ça va faire, là, ça tombait tout le temps. On va mettre une débarbouillette et ça fait très bien l'affaire. C'est bon? Alors, vous venez de sauver 10$ environ. Merci.
Vous écoutez les voix de service.
Thank you. plus jamais un seul jour d'oubli. Tous les nuages se sont dissipés. Il faut me croire encore quand je te dis, je ne vois plus que toi.
De Marathonians, toi et le soleil.
Oui, merci beaucoup. Alors, nous sommes de retour à votre service. Serge Hamelin, toujours, qui vous parle, en compagnie de Franceline Nieuviard. J'allais dire Christiane. Bon, c'est joli quand même, Christiane. Alors, nous avons parlé de malbouffe, nous avons parlé de grosseur. Voudrions-nous rester minces? Voudrions-nous maigrir? Alors, on va vous parler, tiré de la revue Protégez-vous toujours, des yogourts. Les fameux yogourts. Est-ce qu'il y en a-tu des yogourts? De toutes les sortes, de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs. Alors, on va parler des yogourts individuels, des desserts ou des collations. Les yogourts vendus en petit format se déclinent en mille et une variétés dans les frigos des supermarchés. Et voyons lesquels ne sont pas trop sucrés et fournissent une bonne dose de calcium. Alors, je suis très content de savoir ça, parce qu'on ne sait jamais lequel choisir. On sait que c'est santé, mais est-ce que c'est vraiment santé? Alors, c'est Catherine Crépeau, journaliste, et Linda Gauthier, chargée de projet, qui se sont occupées de cet article-là. Alors, grec, les yogourts grecs, probiotiques, sans lactose, protéines, de chèvre, etc. Etc., c'est pas un nom de yogourt, ça, non? Comment choisir un bon yogourt à mettre dans votre boîte à lunch ou dans celle de votre enfant, que ce soit comme complément de repas ou comme collation en après-midi? Pour répondre à la question, on a analysé, écoutez bien ça, la valeur nutritive de 185 variétés vendues en portions individuelles, emballage de deux contenants ou plus. Nous avons inclus les paquets réunissant plusieurs saveurs, mais exclu les yogourts à boire et nature, les fromages frais de type Minigo et Nano, ainsi que le Soygo de marque Yosso, qui est fabriqué à base de soja. Résultat, et ça c'est 185 sortes, imaginez si on avait rajouté ça là. Résultat, on a trouvé 6 meilleurs choix, qui sont les produits les moins sucrés et les plus riches en calcium de notre évaluation, et 76 bons choix, c'est-à-dire des yogourts raisonnablement sucrés et qui offrent une quantité acceptable de calcium. Sucré ou édulcoré? Les yogourts vendus sur le marché sont souvent très sucrés en raison des purées de fruits, du caramel, du chocolat ou du sirop à la vanille qu'ils contiennent. Et c'est là leur plus grand défaut. La preuve, 107 des 185 produits évalués dépassent la limite de sucre que nous avons fixée pour nos meilleurs choix, soit 10 grammes par contenant. Nos bons choix, quant à eux, ne devaient pas en renfermer plus de 12 grammes. Pourquoi ces limites? C'est qu'un petit pot de yogourt contient naturellement de 3 à 7 grammes de lactose, le sucre naturel du lait. Et selon le mode de fabrication employé et le type de lait utilisé, entier, écrémé, protéines de lait, etc., et comme il est impossible de savoir si la quantité de sucre indiquée sur les produits provient du lactose, des fruits ou du sucre ajouté, la limite de 12 grammes paraît raisonnable, selon Marie-Josée Leblanc, nutritionniste à Extenso, le centre de référence sur la nutrition de l'Université de Montréal. Alors, cette limite correspond au quart de l'apport quotidien maximal établi par l'Organisation mondiale de la santé pour un adulte en santé. Les yogourts les moins sucrés ne sont toutefois pas toujours les meilleurs choix. Les 11 produits qui n'affichent que 3 grammes de sucre contiennent du sucralose ou du stevia. Et ces édulcorants utilisés pour diminuer la quantité de sucre totale du produit entretiennent votre goût pour le sucré, comme tous les succès d'année. De plus, les édulcorants artificiels comme la saccharine, la sucralose et l'aspartame auraient des effets potentiellement néfastes sur le microbiote intestinal, souligne Marie-Josée Leblanc. Et c'est pourquoi les yogourts qui renferment des édulcorants sont exclus de nos meilleurs et bons choix. C'est bon ça? Et on continue un peu plus loin à la page 26. Le yogourt le moins sucré parmi nos recommandations, le vanille, 0% de la collection, on est rendu dans des collections, c'est quelque chose, la collection grecque de Scotidakis. Connaissiez celui-là? Non, hein? Fournit 7 grammes de sucre par portion de 100 grammes. À l'opposé, le zeste d'orange et d'agrumes, 3,25% d'Astro Original Parfait, est le plus sucré que nous avons trouvé sur le marché avec ses 22 grammes de sucre par contenant de 150 grammes. Ne cherchez pas ce produit dans le tableau, la page 25. Quand on recommande des produits, il n'est pas là. Alors, précieux calcium. L'apport quotidien recommandé en calcium fixé par Santé Canada est de 1000 mg pour la population en général et de 1300 mg pour les jeunes de 9 à 18 ans. Et pour combler vos besoins et ceux de vos enfants, le yogourt peut être intéressant en raison de leur petit format. Toutefois, peu de contenants individuels s'avèrent riches en calcium. Seulement 30 des produits évalués remplissent le critère de meilleur choix sur ce plan en fournissant au moins 15% du calcium qu'on devrait consommer dans une journée, soit ce que procure un demi-verre de lait. Les 7 yogourts les plus riches en calcium qu'on a analysés comblent 30% de vos besoins quotidiens et sont de type grec. Toutefois, un seul répond à tous nos critères de recommandation, c'est le yogourt grec vanille 0% de Scotidakis, un de nos meilleurs choix. Alors, je sens que les tablettes vont se vider de ce yogourt cette semaine à la suite de ce que vous venez d'entendre. Les autres sont trop sucrés pour figurer dans notre palmarès de recommandations. Tous les yogourts grecs ne sont cependant pas aussi riches en calcium et parmi les 29 produits qui en renferment le moins, soit 8%, 26 sont de type grec. Alors, il faut lire les étiquettes nutritionnelles pour faire un choix éclairé. Et du côté des yogourts traditionnels, les 9 plus riches en calcium fournissent 15% de la valeur quotidienne. Encore là, un seul est recommandé, soit le yogourt de chèvre, vanille, 4,9% de la collection Petit Pot de Riviera, qui fait partie des meilleurs choix. Et les bons choix comptent 45 yogourts traditionnels qui comptent 10% des besoins quotidiens en calcium. Alors, vous méfiez des gras saturés. Bon, réputés mauvais pour la santé du cœur, rassurez-vous, car la majorité des yogourts vendus en petits contenants en renferment très peu ou pas du tout, indique Marie-Josée Leblanc d'Extenso. De plus, de récentes études montrent que l'effet des gras saturés sur le taux de cholestérol et sur le risque de maladies cardiovasculaires dépend de l'aliment qui les contient. Ainsi, Les gras saturés de la viande rouge seraient plus néfastes que ceux des produits laitiers. Grec, ordinaire, à boire ou probiotique, au-delà de la liste des ingrédients, quel type de yogourt devriez-vous choisir? Ben, la réponse dépend de ce que vous recherchez ou ce que vous voulez. Complétez votre repas du midi, une collation légère ou améliorez la santé de votre système digestif. Alors là, on a des yogourts différents. Pour compléter le repas du midi, on choisit un yogourt grec qui est généralement plus riche en protéines que les autres variétés et les 80 produits de ce type d'évaluation contiennent au moins 7 grammes de protéines contre seulement 6 des 105 yogourts traditionnels. En tout, 36 yogourts grecs figurent parmi les recommandations. Maintenant, pour une collation légère, optez pour un yogourt comme ceux que nous recommandons, qui vous fournira une bonne dose de calcium, soit au moins 10 % de la valeur quotidienne. Les versions traditionnelles valent mieux que les yogourts à boire, car en ajoutant de l'eau à ces derniers pour les rendre plus liquides, les fabricants diluent la teneur en calcium, et la majorité des yogourts à boire sont aussi très sucrés. Et je termine en vous disant qu'améliorer la santé de votre système digestif, il faut opter pour un yogourt contenant des probiotiques. On en trouvera 35 parmi les recommandations, dont 26 de la marque Danone Activia. Ça, elle est connue, celle-là. Alors, ces produits ne sont cependant pas une panacée, puisqu'il est difficile de savoir combien de bonnes bactéries sont encore actives dans votre yogourt quand on le mange. Et de plus, les études ne s'entendent ni sur le type de probiotique à consommer, ni sur la quantité absorbée pour en retirer les bienfaits. Alors voilà, c'est ça pour les yogourts. Et à la fin de l'émission, je vous donnerai la liste, si vous voulez, des meilleurs et des bons choix. D'accord?
Oui, ce sera intéressant.
Alors vous sortirez vos crayons et papier pour prendre ça en note, si vous voulez. À tantôt.
Alors maintenant, avec les yogourts et tout ce que vous avez raconté, moi, mon texte qui est tiré de la revue Le Bel Âge de juillet-août 2018, qui est écrit par Linda Presley, s'intitule « Je veux donner du sens à ma vie ». Au tournant de la vie, quand survient la retraite ou un autre changement majeur, on a tout le loisir de réfléchir. Les interrogations existentielles peuvent alors surgir. À quoi je sers? Quel sens je veux donner à ma vie? Plus troublante encore, la question de notre finitude. Une fois le cap de la quarantaine passé, on sait que l'on s'en va vers là, confirme Suzanne Rousseau, théologienne et auteure du livre « Enquête de sens, guide de la dynamique spirituelle contemporaine ». Il revient alors à nous de choisir entre le vieillissement serein ou amer. Voilà bien le défi. Prêt alors pour un voyage vers la paix intérieure? D'abord, chacun d'entre nous est-il en mesure de réaliser une telle quête? Absolument, répond Suzanne Rousseau. Qu'on soit croyant, pratiquant ou athée, on a tous des interrogations. À quoi ça sert de vivre? D'où je viens? Pourquoi suis-je là? Y a-t-il une vie après la mort? Chez des gens, les questions se posent avec la dimension religieuse, comme « Dieu existe-t-il? Irai-je au ciel ou en enfer ?» Mais à la base, la quête de sens est spirituelle. Cette dernière se déroulerait en 6 étapes que l'auteur décrit dans son ouvrage, chacune comportant des questions, des réflexions et des exemples concrets sur notre façon d'interpréter la vie et les événements. En général, les 55 ans et plus se situent dans les étapes 2 et 3, c'est-à-dire qu'ils doutent de l'existence de Dieu ou d'une force supérieure, mais qu'ils y font appel en cas de problème. Ainsi, une personne pourrait dire « Je ne prie pas, mais je ne vais pas à la messe, mais s'il m'arrive malheur, j'aimerais que quelqu'un ou quelque chose me guérisse de mon cancer ou veille sur la santé de mes enfants. » Heureusement, rien ne nous oblige à attendre que le ciel nous tombe sur la tête avant d'agir. À tout moment, une remise en question s'avère utile et favorable à notre épanouissement spirituel. Mais par où commencer? Le retour à la source, c'est-à-dire vers soi-même, s'opère en premier lieu quand on prend le temps de s'observer en profondeur. Pour y parvenir, on s'incarne, on sent bien notre corps, afin de trouver ces moments où l'on se sent pleinement vivant sur le plan physique, émotionnel, spirituel et énergétique, conseille Nicole Bourdelot, maître en yoga et méditation. Il peut s'agir d'une activité en groupe, d'une marche contemplative ou d'une séance de méditation. Ces instants que l'on apprend à se connaître, où l'on apprend à se connaître et à se comprendre, donnent un sens à notre vie, nous permettent d'atteindre notre plein potentiel et de continuer à évoluer. Pendant cette introspection, on en profite également pour se soumettre à un interrogatoire serré. On se pose les vraies questions, on regarde nos souffrances et nos limites en face, décrit Suzanne Rousseau. Pour se connaître à fond, il est aussi essentiel de sortir des multiples rôles, ceux d'élève, de conjoint, de parent, de grand-parent, de travailleur, qu'on occupe donc depuis toujours. Il s'agit ensuite de voir qui on est derrière toutes ces étiquettes, ajoute Nicole Bourdelot. Le « qui suis-je » est le travail de toute une vie, mais être éveillé à cela est déjà beaucoup. Se voir comme une personne valable et pleine grandeur, même dans sa vulnérabilité, est aussi une démarche essentielle dans la quête de soi, affirme Suzanne Rousseau. Or, même à la retraite, on nous encourage à demeurer actifs à tout point de vue. Comme s'il fallait encore être efficace jusqu'à la fin de nos jours pour se considérer comme valable. Pourtant, le simple fait d'exister est une valeur extraordinaire en soi. Se convaincre qu'on vaut plus que ce qu'on fait constitue une étape importante dans notre cheminement. En se disant qu'on mérite d'exister, le regard qu'on porte sur soi ou sur l'ensemble des personnes âgées risque de changer, poursuit la théologienne. On se dit alors « Oui, j'ai des rides et mon corps n'est plus le même, mais cela ne modifie en rien ma qualité d'être. » Lâcher prise permet de mieux avancer, répètent les guides spirituels. Mais avouons-le, la chose n'est pas aisée, surtout quand on a toujours été ultra-performant. C'est pourtant le cours naturel de la vie, rappelle Nicole Bourdelot. En résistant, on risque de créer des tensions dans notre corps, de semer en nous des inquiétudes, alors qu'en trouvant un projet ou autre chose qui nous nourrit intérieurement, sans que ce soit relié à notre travail ou à un autre aspect de notre quotidien, on devient dans l'être et non dans la performance. Afin d'assurer une transition en douceur entre le faire et l'être, elle recommande d'y aller progressivement. On adopte un rythme plus respectueux de qui nous sommes. Cela ne veut pas dire cesser d'être actif, au contraire. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il est plutôt question de remplacer une idée fixe par quelque chose de plus créatif. Par exemple, au lieu de courir 10 km par jour comme on l'a fait pendant des années et des années, on pourrait essayer de parcourir 5 km à la course et 5 km en marchant. L'âge ne nous empêche nullement de continuer à participer au mouvement. Il faut trouver des façons de se réinventer, de se dépasser, sans avoir peur de sortir de notre zone de confort, tout en conservant la flamme, illustre Nicole Bourdelot. Et voir ça comme un beau défi au lieu d'un échec, une perte ou un deuil. Au bout du compte, la progression vers l'épanouissement personnel consiste avant tout à rester soi-même et à ne pas se considérer comme une victime de la vie, de Dieu, de l'univers, du hasard, du karma ou autre. En acceptant cela, on ne peut faire autrement que d'être heureux, affirme Suzanne Rousseau. Même s'il arrive des pépins ou des malheurs, on demeure convaincu que la vie vaut la peine d'être vécue. En progressant dans notre cheminement spirituel, on comprend aussi que l'amour de soi et des autres est la base de tout. L'amour constitue d'ailleurs le message fondamental de toutes les religions, souligne la théologienne. Outre donc les livres et les ateliers de croissance personnelle, les cours de méditation, les savoirs et connaissances pouvant tous nous servir de guide et d'inspiration dans notre quête, on profite de la compagnie de nos parents et amis. Se dire, comme chantait Ferland, une chance qu'on a est la plus belle façon de célébrer la vie. Donc voilà, c'était écrit par Linda Priestley et elle s'est servie donc de ces deux livres dont je vais vous donner les références. Ce qui est bon pour l'âme, on lit donc Enquête de sens, guide de la dynamique spirituelle contemporaine de Suzanne Rousseau aux éditions Novalis. On peut aussi se procurer L'art de se réinventer, 52 cartes de transformation personnelle de Nicole Bourdelot aux éditions de l'Homme. Suzanne Rousseau conseille également L'autre Dieu de Marion Mullard-Collard, qui est son auteur chouchou, et puis Éric Emmanuel Schmitt. Chacun de ces romans, dit-elle, nous brasse la cage et nous incite à remettre en cause certaines choses. Et pour finir, Nicole Bordelot recommande aussi son auteur préféré, Christian Bobin. Je lis chaque jour une de ces deux phrases, une ou deux phrases de lui, ses livres qui parlent de la vie dans sa grande simplicité et dans son sens le plus profond, me nourrissent sur le plan spirituel, même s'ils ne traitent pas nécessairement de l'aspect spiritualité. Voilà donc, j'ai trouvé cela dans le journal du Bel Âge, non dans le Bel Âge, de juillet-août 2018.
Alors, nous revoici. Merci, Francine, pour ton article. Et moi, je vais faire un petit retour sur les yogourts, comme je vous avais dit. Et un petit retour pour compléter notre émission sur les accessoires pour bébés inutiles. Il y en a quelques-uns que je n'ai pas pu vous mentionner tantôt. C'est beau? Alors, dans les yogourts. Alors, je commence à avoir le goût de manger des yogourts. Moi. Alors, on a dit que le meilleur yogourt, pour la santé, qui contient des probiotiques, qui n'a pas de lactose, moins de sucre possible, beaucoup de calcium, beaucoup de protéines, moins de calories. Le prix, et puis où on trouve ça? Eh bien, la note globale pour le groupe Loblas, c'est là qu'on trouve ça, est de 95% en première position cette semaine. J'ai nommé, vous le savez déjà, on l'a mentionné tantôt, c'est le Scotidakis grec, cerise noire, fruit au fond, 0%, et il est en première position. En deuxième position, c'est le Scotidakis grec, vanille, 0%. C'est bon? Ensuite, le Riviera grec. Ensuite, le Riviera grec. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ces deux Riviera de différents? Eh bien, il y en a un qui est aux framboises, l'autre est à la vanille. Hein, ça va? Alors, c'est une question de goût. Ils ont la même note, 92%. Une belle note de passage, ça. Ensuite, notre excellence. C'est un autre yogourt grec. C'est le titre. Hein? Notre excellence. On ne rit plus. Et puis, le Riviera, petit pot, yogourt chèvre, à la vanille, qui fait partie et qui complète les meilleurs choix. Maintenant, dans les bons choix, ben là, il y en a plus d'une vingtaine. Alors, il y a le Scotidakis grec, aussi, au bleuet, aux fraises. Ensuite de ça, il y a le choix du président. Ah, ben ça, tiens, choix du président. Grec, cependant, à la noix de coco râpée au fond. Ça a l'air bon, ça. Le choix du président grec. Je l'ai dit, lui. Et maintenant, on entre dans du plus connu, le Danone Activia à la vanille. Il est bon, lui aussi. Et le Danone Activia sans lactose. Ensuite, il y a le choix du président. Hein? Aux cerises noires, framboises, pêche, grenade. Bon, avec les fruits au fond. Et il y a le choix du président grec à la vanille, 0%. Et il y a notre excellence. Alors, il y en a plusieurs sortes hein, ce matin. Vous en avez retenu un? En avez-vous retenu un, vous?
Oui, mais moi, j'aime beaucoup les yogourts nature et vous, ça ne fait pas partie de votre liste de...
Ah, ben non, nature.
Moi, j'aime
nature,
mieux mettre des fruits dans mon yogourt nature.
On a la vanille, on n'a pas de nature.
Oui, c'est
hein?
Ça, oui. C'est...
Ben, oui, pauvre vous.
Ben oui, je vais encore acheter mes yogourts nature.
Bon, on va continuer. Alors, vous allez maintenir votre poids. Bon, alors voilà. Non, c'est des fruits, où il y a la vanille, mais on ne parle pas de nature. Et moi, j'aime bien le Astro original. Ici, le Astro nature. Mais là, on parle encore de bleuets, de fraises, de pêche. C'est étrange. Et puis ensuite de ça, bon, ça va pour...
Pour les yogourts, oui.
Pour les yogourts, ça va? Ouais, on est rassasié au niveau des yogourts. Allons pour les petits accessoires. Juste un petit accessoire pour les bébés, là. okay, que je voulais vous mentionner, hein, c'est le mélangeur de type le Baby Bullet, là. Franchement. Ce petit mélangeur permet de concocter des purées. Une amie m'avait prêté le sien et il a brisé rapidement. Hein, pas compliqué. Dit Amélie Lessard, c'est comme des gadgets, hein? Maman d'un poupon de 10 mois. Cela ne m'a pas vraiment manqué. C'est bon? Alors, voilà, donc, on oublie le mélangeur de type Baby Bullet. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine, de nous avoir écoutés en ce beau lundi 20 août. Merci beaucoup, Franceline Nuillard.
Oui, merci, Serge.
Merci beaucoup, Maurice. Et je vous dis à la semaine prochaine, en compagnie de Claude Blas.
Voilà. Bonne semaine.
Oui.